On va continuer l'étude sur les premiers pas. Quand on parle de premiers pas, c'est parce qu'on est en train de parler des choses de base de la vie chrétienne. Les premières choses qu'on doit apprendre, quand on se met à lire la Bible, on s'aperçoit, c'est des choses de base. Puis tous les chrétiens doivent être au courant de ces choses-là. Puis le sujet d'aujourd'hui, c'est le chrétien et ses ennemis. On va voir dans ces passages-là, on va faire un survol de ces sujets-là parce qu'on ne verra pas dans une seule journée l'étendue de toutes les jusqu'à où que ça va, les combats qu'on a envers nos ennemis. Mais on va quand même découvrir qu'il y a trois ennemis principaux pour les chrétiens, puis au moins que vous puissiez les retenir. Plus tard dans l'année, il va y avoir d'autres études qui vont être amenées là-dessus pour nous faire comprendre plus en profondeur quels sont les ennemis des chrétiens. La première question que je pose dans l'étude, mais avant d'aller dans l'étude, on va se tourner en prière. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus qu'on est rassemblés devant toi, puis je te remercie pour le bon temps de louange qu'on a eu un matin pour venir élever nos cœurs pour te louer, puis t'adorer, puis te dire combien tu es grand, comment tu es bon, et comment est-ce que nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, de ton Saint-Esprit qui veut nous conduire, qui veut nous édifier, nous fortifier, veut nous équiper. C'est pour cela, Seigneur, qu'on est à l'écoute de ta parole. Je te demande de parler à nos cœurs par ta parole. De nous montrer, Seigneur, ce que tu nous as déjà enseigné dans ta parole, mais de nous le faire comprendre, puis qu'on puisse avoir les yeux ouverts sur ce qui se passe autour de nous. Je remets cette réunion entre tes mains, puis je te prie dans le nom de Jésus. Le sujet, quels sont les combats du chrétien? Dans le cheminement d'un chrétien, pour sa croissance et sa mise à part, pour qu'il combatte le bon combat, nous avons besoin d'apprendre à discerner nos ennemis. Le verset de Colossiens, c'est Paul qui est en train de parler. « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage dans la chair. » Juste faire une petite méditation sur ce verset-là. Paul il est en train d'écrire « Je veux que vous sachiez combien il est grand le combat que je soutiens pour vous. » Chaque homme de Dieu qui est dans ce monde présentement, ceux qui sont affermis dans le Seigneur, ceux qui sont rendus à une stature plus évoluée que d'un simple enfant, parce que quand on donne notre vie au Seigneur, nous sommes des bébés nouveau-nés. On est des enfants de Dieu. Mais Dieu veut pas qu'on demeure dans l'état d'enfant toute notre vie. Il veut qu'on grandisse. Il veut qu'on s'affermisse dans le Seigneur. Il veut qu'on devienne des hommes et des femmes de Dieu, équipés avec sa parole, son esprit, puis toute la connaissance que Dieu nous a révélée, pour qu'on commence à rentrer dans le combat. Parce qu'il y a un combat réel présentement. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas familiers avec cette idée-là, que la vie chrétienne, c'est un combat. Mais je vous l'apprends ce matin, la vie chrétienne, c'est un combat. C'était enseigné dans la parole de Dieu. Puis ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir trois ennemis les plus importants pour le chrétien. Il est important non pas juste de le savoir. Le savoir, ça nous aide à s'ouvrir les yeux. Mais pour qu'on puisse commencer à combattre, qu'on puisse commencer à répondre à ces combats-là avec les armes que le Seigneur nous a données. Le premier point, le point A, le chrétien face à Satan. Satan, c'est un de nos adversaires, un terrible adversaire, qui travaille depuis le début de la création à essayer d'amener la malédiction de Dieu sur la terre et toute sa création. Puis, il a réussi. La terre est rendue maudite à cause de Satan qui a entraîné Adam et Ève à désobéir à Dieu. Adam et Ève ont été privés de plein de bénédictions. Ils ont été privés de l'arbre de vie qui leur donnait de vivre éternellement, et ainsi de suite. La Bible nous avertit de la présence d'un ennemi redoutable qui est en cours là aujourd'hui. Satan, il n'est pas mort. Et les chrétiens doivent réaliser que Satan, il est là présentement. à essayer de nous attaquer de toutes ses formes. On va voir quelques versets qui parlent de ces choses. 1 Pierre 5:8. La Bible nous dit, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Qu'est-ce que j'apprends dans ce verset-là? Qu'on encourt ce même adversaire-là, qui était là depuis le début de la création avec Adam et Ève, ce même adversaire-là est présent encore aujourd'hui. Ça dit aux chrétiens, veillez. Veiller, ça veut dire quoi? C'est le contraire de dormir. Quand tu dors, tu t'aperçois plus de ce qui se passe autour de toi. Tout ce que tu vois, c'est tes propres rêves. Mais quand tu veilles, t'es debout, t'as les deux yeux tout grands ouverts, puis là, t'es à l'aguet, t'es à l'écoute. Tu vérifies ce qui se passe autour de toi. Tu fais attention. Puis là, il nous dit, il y a un adversaire qui est devant nous autres, pas juste devant Adam et Ève. Il a été devant Jésus, il a été devant les apôtres, il a été à travers tous les temps, depuis le début, devant les chrétiens. Puis ce verset-là nous avertit encore aujourd'hui que le diable, c'est notre adversaire, c'est notre ennemi. Le mot adversaire, ça veut dire ennemi. Quand tu te regardes dans un combat, à la lutte, mettons, t'as un homme qui a un adversaire, c'est celui avec qui ce qu'il va lutter. Puis un lutteur qui monte sur le stage, sur le ring, comme qu'il appelle, puis qu'il n'a pas l'intention de lutter, c'est pas sa place. Hein? Parce que quand tu embarques sur le ring, c'est parce que tu sais que tu vas un adversaire, puis tu sais que tu as un combat engagé, puis tu t'embarques dans le combat, puis tu te bats avec tout ce que tu as à ta disposition pour te défendre, puis pouvoir maîtriser l'autre. Mais dans la vie spirituelle, c'est exactement la même chose. Il y a un adversaire qui cherche à dévorer. Puis il est là, puis il veut s'acharner sur chacun des chrétiens, que tu sois fort dans le Seigneur, dans le sens que tu fais longtemps que tu es chrétien et affermi, ou que tu sois un nouveau-né spirituellement, tu n'es pas à l'abri de ses attaques, de ses pièges, de ses tentations, de ses jugements, de ses oppressions, de ses persécutions, de ses maladies, de tout ce qui peut lancer contre le chrétien. Il existe un ordre céleste qui exerce une opposition sur tout être humain. La Bible nous dit que dans le monde invisible, là, je ne vois pas de mes yeux, je ne vois pas le diable, je ne vois pas les démons, je ne vois rien. Mais la Bible me dit que dans le monde invisible, dans le même monde qu'on est, mais dans l'invisible. Nous, on n'a pas les yeux pour voir dans l'invisible, mais par la foi, on peut voir dans l'invisible. Imaginez-vous que présentement, vous êtes assis dans les bancs, puis il y a plein d'anges, de principautés, de pouvoirs qui sont là, puis vous regardent. C'est ça ce qui nous dit ce verset, Éphésiens 6:12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Présentement, dans les lieux célestes, autant qu'on sait que Dieu est là et les anges de Dieu sont là, mais il y a aussi toute une hiérarchie dans le monde de l'ennemi. Des dominations, ça c'est comme des gros royaumes d'ennemis. Des, comme si les anges, ils ont des territoires, des gros territoires. Comme nous autres, c'est le Canada pour les humains, mais pour les anges, il y a peut-être un groupe de démons aussi qui travaillent au-dessus du Canada. C'est des dominations. Puis dans ces dominations-là, il y a des autorités. C'est que dans le monde invisible, il y a des puissances infernales, des puissances diaboliques, des puissances sataniques, démons, esprits impurs, que la Bible parle. Ça parle aussi d'oiseaux impurs et détestés. Il y a plusieurs sortes de créatures dans le monde invisible, des serpents, des scorpions. En réalité, c'est toute la puissance de l'ennemi qui sont là, puis ont des grades d'autorité. Ces puissances-là se réunissent en conseil, puis essayent d'exercer à changer le cours de l'histoire pour pas que le plan de Dieu s'accomplisse. Ils essayent de travailler contre le peuple juif, contre les chrétiens, puis garder dans l'esclavage chacune des personnes qui sont dans ce monde, puis empêcher les gens de reconnaître que Jésus est là pour les empêcher d'être sauvés. Puis il y a aussi dans ce monde d'autorité-là, il y a des princes. Il y a des principautés, il y a des personnages élevés en dignité, comme Satan, ça en est un. Satan est un chérubin qui n'a pas gardé sa place, puis qui a été précipité. Il est comme un chef de grande autorité, puis qui règne sur toute la hiérarchie de tous ces démons-là qui sont là dans les lieux célestes. Puis il y a plein d'esprits méchants dans les lieux célestes, de toutes les formes, des esprits qui attaquent les gens de toutes les manières, qui sont là, aux aguets, ils ont leur plan, ils ont leur stratégie. La Bible nous dit qu'ils sont là pour qu'on le sache qu'ils sont là, puis qu'on soit à l'aguet, en train de veiller pour combattre contre notre adversaire. Dans Éphésiens 4, 27, la Bible enseigne aux chrétiens à ne pas donner accès au diable. Pourquoi qu'on dit ça? Quand tu es devenu chrétien, tu as changé de royaume, tu es passé des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan, du royaume de Satan au royaume de Dieu. Tu es rendu un béni de Dieu, tu es rendu un favori de Dieu, tu es rendu un consacré à Dieu, tu es un mis à part, tu es un saint. Le mot saint veut dire sacré, tu es un sacré. Aux yeux de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es devenu un homme de Dieu avec le temps. Tu appartiens à Dieu. Le sceau de Dieu est sur ton front. Le Saint-Esprit est en toi. L'Esprit Saint, le souffle sacré. Le souffle sacré de Dieu est en nous. On appartient à Dieu. Le diable n'a plus de pouvoir sur nous. Parce que tout ce que l'ennemi pouvait faire, c'est essayer de nous garder dans le par nos péchés, nous garder esclaves de ses chaînes. Puis quand tu viens à Jésus-Christ, Jésus te pardonne, il te purifie, il te sort de là. Puis maintenant, tu es purifié par le sang de Jésus. Tu es un saint, tu es un sacré, le diable n'a plus d'emprise. Sauf que tu dois savoir que tu as à faire attention. Tu as à faire attention. À pas donner d'accès au diable, à revenir dans ta vie, à te rendre esclave de ses chaînes, puis de te recapturer par ses pièges. Tu dois faire attention à tes pensées, à tes paroles, à tes actions, à tes réactions, à tes sentiments, à tes émotions, à pas rien accepter qui vient de l'ennemi. C'est sûr qu'un chrétien, quand il réalise qu'il est dans un piège, il peut invoquer le nom de Jésus, puis le sang de Jésus va le pardonner, puis le purifier, puis il va le délivrer. Mais il faut quand même veiller à ne pas donner d'accès au diable. Éphésiens 6, 11. À cause justement de cela, qu'est-ce que Dieu nous a donné pour combattre? Éphésiens 6, 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Les armes de Dieu sont déjà là à notre disposition, sont déjà révélées dans la parole de Dieu. Ils sont donnés aux chrétiens, ils sont à l'intérieur du Saint-Esprit et de sa parole. Tout est là pour qu'on puisse marcher dans une vie de liberté, dans une vie de piété. Il nous a déjà tout donné ce qui contribue à notre vie et à notre piété. Pour qu'on puisse marcher en contact avec le Seigneur, marcher dans la victoire sur l'ennemi et persévérer jusqu'à la fin dans notre course. On l'a chanté tout à l'heure. Que le peuple de Dieu, il est plus qu'un vainqueur. Parce que le Seigneur, il marche au-devant de nous. Gloire à Dieu. Il faut aller chercher les armes de Dieu. Là, si vous me dites, « Ouais, mais je ne les connais pas. Je ne sais pas quoi faire. » Mais c'est pour ça qu'il y a des enseignements à l'Église. C'est pour ça qu'on fait des réunions, dans le but que tous entendent ce qui est écrit dans la parole de Dieu, pour aller chercher ce qui est là à notre disposition. Je prends, je sors de mon portefeuille un 20$, je le mets ici en dessous de la tablette de la chair, là. Si vous ne savez pas que je vous donne ce 20$-là, vous n'irez pas le chercher. Vous ne le prendrez pas, puis peut-être vous en avez grandement besoin. Mais là, c'est une parabole. C'est une parabole. J'ai pas vraiment mis un 20$, c'est une parabole. Tant que je vous le dis pas qu'il y a un 20$ à votre disposition, puis vous avez le droit de venir le chercher, tant que je vous le dis pas, vous pouvez pas venir le chercher. Vous ignorez qu'il est là. Pourtant, vous en avez grandement besoin. Mais tant que vous le savez pas, vous le prendrez pas, puis vous ne serez pas secouru par ce 20$-là. Mais la Bible a des armes qui sont là, puis tant que vous ne les connaîtrez pas, ces armes, vous les ignorez. Vous ne le savez pas. Vous ne les utiliserez pas, puis vous ne pourriez pas combattre contre le diable. Ces armes-là, c'est bien écrit, c'est pas moi qui ai inventé ça, ces armes-là sont dans le but de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Elles sont là. Dans le but exprès de combattre le diable. Ils sont pas là juste pour me remplir le ventre, ces promesses-là. Ils sont pas là juste pour me satisfaire intellectuellement. Elles sont là pour que je les réalise, sont là, que je les prenne, que je les réclame, que je les demande à Dieu qui m'équipe. Puis après ça, je peux commencer à combattre. Puis là, je vais commencer à vivre des choses différentes. Parce que Dieu va me délivrer. Dieu nous a donné ses armes, mais il nous a déjà aussi donné un pouvoir supérieur à tous les démons. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir, la puissance de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Wow! Rien ne pourra vous nuire en autant que vous utilisez la puissance, l'autorité, le pouvoir qu'il vous a donné. Si on ne sait pas qu'on l'a, on va se faire manipuler d'un bord puis de l'autre, attirer, tenter, oppresser. On subit des choses puis des attaques, une par derrière l'autre. On s'en sort jamais. Pourquoi qu'on s'en sort pas? Parce qu'on ne sait pas que c'est là. Comment est-ce que je peux m'en sortir? Il faut que je réalise que ce qui est là. Pour le réaliser, il faut venir aux réunions. Des enseignements sont donnés de semaine en semaine, des enseignements qui nous font approfondir une vision claire, pour avoir une vision claire du monde invisible, puis qu'on puisse rentrer dans le combat, puis qu'on puisse être victorieux. Si je n'aurais jamais entendu que par le sang de Jésus, je peux être pardonné de mes péchés, puis recevoir la vie éternelle par la foi, si je l'aurais jamais entendu, je l'aurais jamais saisi. Puis gloire à Dieu qu'on le sache, parce que ça nous a donné l'occasion de l'accepter, puis de le recevoir, et on l'expérimente, la présence de Dieu. Mais les armes de Dieu, c'est la même chose. Ses armes et son autorité, ses pouvoirs qu'il a mis à notre disposition, sont là pour qu'on les utilise pour avoir la victoire sur le diable. C'est un ennemi, pas juste contre Jésus, contre chacun de nous encore 2000 ans plus tard. Puis tous ces démons qui sont avec. Le chrétien ne doit pas se laisser faire, mais il doit passer à l'attaque. Jacques 4:7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez. Un chrétien ne doit pas rester inactif. C'est comme j'ai dit tantôt, le lutteur qui monte sur le stage, il est déjà entraîné. Il a tout appris ce qu'il fallait pour donner le meilleur de lui-même pour combattre son adversaire, puis il passe à l'attaque. C'est insensé, quelqu'un qui s'en va au combat et qui n'a pas eu d'entraînement. C'est insensé d'arriver sur le terrain de bataille puis pas engager le combat. Tu manges une volée puis tu te laisses faire. Ben, quelque part, ça se peut-tu que Dieu voulait qu'on fasse d'autres choses? Il veut qu'on arrête de manger des volées. Il veut qu'on arrête de se laisser faire. Il faut apprendre à résister. Puis, il y a des manières de résister. On verra pas tous ces sujets-là aujourd'hui, c'est des premiers pas. Mais si vous venez dans les réunions dans l'année, je vais commencer une étude qui va être les armes et la puissance de Dieu à notre disposition. Le titre, c'est « Préparer pour la guerre ». Puis il va y avoir une série de 20 messages sur des sujets différents. Ça ne sera pas rien que cette année, c'est sûr. On n'a pas assez de temps, j'ai pas assez de temps pour prêcher tout ça. Puis à chaque prêche, il y a un sujet qui s'attache à tout ça ensemble-là. Si l'enlèvement arrive avant, mais on n'aura plus de besoin, on va être déjà rendu en haut. Gloire à Dieu! Résister au diable! C'est ça que la Bible elle nous dit. Quand vous allez sortir d'ici, tout ce que vous avez eu aujourd'hui, c'est comme un éveil de savoir que le combat est réel, que le diable est là, il y a tous ces démons-là, je ne dois pas y donner d'accès, mais je dois aller chercher ses armes, je dois prendre son autorité, puis je dois y résister. Une de ses armes, c'est la séduction. C'est pour ça que les enseignements, on élargit les sujets et on apprend tout ce qu'il y en est. Qu'est-ce qui va arriver si vous résistez au diable? Il fuira loin de vous. C'est quoi ça? Ça, c'est une promesse. La Bible ne nous dirait pas ça si ça ne serait pas vrai. Si tu résistes, il va s'en aller. Il n'y a pas le choix. Combien de temps que tu vas résister? Là est la question. Jésus, quand il était en train d'être tenté par le diable à la suite de son baptême, il a passé un temps de jeûne de 40 jours, le diable est venu et il tentait Jésus. Puis Jésus résistait avec quoi? En répondant avec des versets de la Bible. Puis il résistait. Puis ça dit au troisième coup, Jésus il a dit, « Retire-toi, Satan! » Là, il a dit de s'en aller. En premier, il résistait contre les tentations, mais après ça, il a résisté contre Satan lui-même, puis il a dit, « Retire-toi! » Puis là, le verset, ça nous dit, « Et le diable le laissa jusqu'à un moment favorable. » Ça veut dire qu'il y a eu d'autres moments que le diable a passé à l'attaque pour essayer de le tenter. Mais si vous sentez que vous êtes dans des moments d'attaque de l'ennemi, prenez autorité dans le nom de Jésus, prenez la parole de Dieu, combattez avec des versets, puis dites de s'en aller, puis il va fuir! Parce qu'on est plus que vainqueur à cause de celui qui nous a aimés. Oui, ça nous fortifie dans le Seigneur. Gloire à Dieu. On va voir dans l'étude un deuxième ennemi qui est là aussi présent que le diable lui-même. Le diable est là, puis on ne le voit pas, mais le prochain ennemi, il est là, puis on le voit tous les jours. Le chrétien face au monde. Puis on va comprendre c'est quoi l'étendue de l'idée. Je vais poser la première question. De quel monde font partie les chrétiens? Parce qu'il faut être conscient qu'il y en a deux mondes. Il y a le monde terrestre, puis il y a le monde céleste. Hein? On va voir un verset. Jean 17, 14. Qu'est-ce que Jésus dit? Là, c'est Jésus qui est en train de prier à son Père. « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Et je ne te prie pas de les ôter du monde, mais des préserver du mal. » Qu'est-ce qu'on doit comprendre dans ce verset-là? Mais la Bible nous dit que nous, les chrétiens, on n'est pas de ce monde. Où est-ce qu'on voit ça, cette vérité-là? On voit ça dans d'autres versets, comme je l'ai mentionné tantôt. Quand on a donné, on est venu au monde dans ce monde. Puis on était de ce monde, animé par l'esprit de ce monde, puis on était dominé, maintenu dans un esclavage par l'esprit de ce monde, parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Quand on est venu à Jésus-Christ, il nous a sortis de ce monde, puis il nous a transportés dans son royaume, dans le royaume céleste, dans le royaume de Dieu, en théorie, pas en théorie, parce que c'est pas une théorie, c'est un fait, c'est une vérité, mais en vérité, je vous le dis, les chrétiens font partie du royaume céleste. Présentement, on est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On est déjà en haut, spirituellement parlant. On est assis en Jésus dans le ciel. Sauf, puis pas sauf tout de suite, on fait partie du ciel comme Jésus fait partie du ciel. Il dit dans ce verset-là, ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas de ce monde. Et pourquoi Jésus dit ça? Parce que Jésus venait du ciel, puis il est venu les deux pieds dans ce monde, mais il dit, je suis venu, mais je ne fais pas partie d'ici, moi. Jésus fait partie du monde céleste. Il est juste venu faire un petit bout de chemin sur la terre. Là, il est en train de dire à ceux qui sont sauvés, vous ne faites plus partie de ce monde-là. Vous faites partie du même monde que moi. Parce qu'à cause qu'il nous a rachetés puis qu'il nous a sauvés, il nous a pris puis il nous a arrachés de ce monde-ci puis il nous a transportés dans le royaume céleste. Maintenant, on est assis en Jésus dans le ciel, sauf que là, Jésus dit à son Père, je te prie pas des enlevés de ce monde, mais des préservés du mal. Il dit, ils font pas partie de ce monde, mais on a encore les deux pieds dans ce monde. Puis il dit, sors-les pas de ce monde, parce qu'il faut qu'ils brillent encore. Il faut qu'ils répandent la bonne nouvelle. Il faut qu'ils aillent en sortir d'autres de ce monde-là. Fait que reste, Père, reste-les dans ce monde, mais garde-les, protège-les du mal. Puis c'est ça qui est un des dangers du chrétien, un autre de ses ennemis. Ce monde qui nous entoure, d'où ce qu'on était extrait, mais qu'on est encore les deux pieds dedans physiquement, puis on est encore à un risque de se faire influencer, de se faire attaquer, d'avoir des oppressions, des problèmes dus au monde qu'on a encore les deux pieds dedans. David dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ici, la terre, c'est la vallée de l'ombre de la mort. La mort plane sur les gens. Il y a déjà des gens qui sont morts, mais nous, qui avons mis notre foi en Jésus, on est rendu des êtres ressuscités, puis on est des vivants dans ce monde. Puis la mort plane, parce qu'il y a toujours un risque qu'on abandonne le seul moyen d'être sauvé. Moi, dans ma foi, que je crois à la manière que je vois les Saintes Écritures, je crois que Dieu a le pouvoir de nous garder tant qu'on va rester accroché à ses promesses, qu'on veut demeurer en lui. Il n'y a pas de danger que vous perdiez que vous sortiez de sa main, puis que lui vous perde, qu'il vous échappe. Mais je crois que les chrétiens peuvent décider quand même de sortir de sa main, puis commencer à rejeter Jésus, à mettre leur foi dans d'autres choses parce qu'ils auront été séduits, puis ils vont devenir des morts spirituellement. Je peux vous expliquer cette doctrine-là un jour si Dieu le veut, mais le point est que la mort plane et est toujours aux aguets parce qu'il y a des adversaires qui nous entourent puis il y a un danger de quitter le chemin puis de s'en détourner. Comment les chrétiens doivent se comporter dans ce monde? Parce qu'on vient du ciel, mais on a encore deux pieds sur la terre. On ne fait pas partie de ce monde, mais on doit être préservé du mal. 1 Pierre 2,11 nous dit, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. » Quelle pensée que je dois avoir juste dans ce bout de phrase-là? « Je vous exhorte comme des étrangers et des voyageurs sur la terre. » Les chrétiens doivent réaliser qu'on est des gens de passage. On ne fait plus partie de ce monde. On est des étrangers de ce monde. Quand les gens nous regardent, ils nous trouvent étranges de croire à un Dieu invisible. On est des étrangers dans ce monde. On est des pèlerins. On est des voyageurs. On est juste pour un petit bout. On est un petit bout à vivre, puis il nous exhorte à penser comme ça. Vous êtes des étrangers et des voyageurs. On ne fait pas partie de ce monde. Maintenant, on fait partie du monde d'en haut. Envisagez la vie avec l'attitude que vous êtes juste de passage. C'est juste de passage. Si moi, je veux m'en aller au Nouveau-Brunswick, juste pour aller faire un petit voyage, aller-retour, je ne m'embarrasserai pas de tout ce qu'il y a dans ce monde pour charger ce voyage-là, faire un voyage, aller-retour. Ça donne quoi? T'emmènes juste ton strict nécessaire que tu as besoin pour ton voyage. Mais il y a un enseignement là-dedans, là. On est juste de voyage sur la terre. Faut pas que notre cœur soit attaché à ce qui nous entoure. Hein? À part des gens. On parle pas des gens, là, on parle de ce qui fait partie du monde. On va voir des idées là-dessus tantôt. Fait qu'on est des étrangers et des voyageurs. Quel mode de vie qu'on doit adopter? Quel mode de vie doivent adopter les chrétiens dans ce monde? Romains 12. Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas. Comment est-ce que je dois vivre sur la terre? Quel mode de vie que je dois adopter? Mais il ne faut pas que je me conforme. Il y a des choses qui sont dans ce monde qui ne sont pas de Dieu du tout. Si on parle, est-ce que ça me donne la permission de manger? Oui, c'est sûr. On ne parle pas de se conformer, de vous empêcher de manger, de vous empêcher de boire, de vous empêcher de dormir, puis de vous empêcher de travailler. C'est pas à ce niveau-là. C'est au niveau d'être préservé du mal. Ce qui est mal dans ce monde. Il faut comprendre que le monde d'à présent est étranger de la vie de Dieu. Un mode de vie, quelqu'un dans ce monde, est impie. Les gens ne prient pas. C'est ça que ça veut dire, impie. Ils sont contraires à être pieux. Ils sont impies. Ils sont méchants. Ils sont rebelles à Dieu. Ils cherchent pas Dieu. Ils marchent pas en contact avec Dieu. Puis le monde se livre au plaisir de ce monde dans les plaisirs charnels de débauche, de péché, et ainsi de suite. C'est pour ça que la Bible a dit aux chrétiens d'être préservés du mal. De pas embarquer dans le monde dans ce qui est pas de Dieu. Les modes, les courants de pensée. Puis bientôt, de ce monde va sortir un gouvernement mondial qui va vouloir contrôler l'ensemble du monde et de faire marquer tout le monde comme étant comme si on les appartiendrait en nous donnant une marque, puis que les chrétiens vont résister à ce que le monde essaye de les dominer puis de les écraser. Il y a plein de choses dans ce monde, on n'est pas là aujourd'hui pour voir l'ensemble de tout le sujet, mais il y a plein de choses dans ce monde qui sont là pour essayer de nous engloutir, de nous noyer à des pratiques qui nous font oublier le chemin, comment ça marche quand tu marches en communion avec Jésus. Puis comment tu veux marcher selon sa parole. Comment Dieu appelle les chrétiens amis du péché de ce monde? Dans Jacques 4:4. Adultère que vous êtes! Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Je ne dis pas qu'on ne parle pas des individus. Il faut être ami avec les individus. Il faut aimer notre prochain. Quand on parle des choses dans ce monde, c'est sur le péché, la question du péché dans ce monde. Les gens se font traiter d'adultère par Dieu. Pourquoi qu'on se ferait traiter d'adultère par Dieu? Chaque enfant de Dieu, on devient fidèle. Chaque enfant de Dieu, quand on a été racheté, on appartient à Dieu, on est devenu quoi? Des fiancés de Jésus. Puis un jour, on va se marier avec Jésus. On est l'épouse de Jésus. Puis un jour, il va y avoir une noce, la noce de l'agneau. Dans le ciel, il va y avoir un grand party où ce que tous les chrétiens vont se marier avec Jésus pour faire qu'un. Puis quand les chrétiens sont sur la terre, puis qu'ils sont attirés par les plaisirs de péché de ce monde, puis qu'ils veulent être amis des pratiques de péché de ce monde, Dieu les traite d'adultères. Tu peux pas dire « j'aime le péché de ce monde » puis dire « j'aime Dieu ». Parce que si tu es en train d'aimer le monde, tu es rendu un ennemi de Dieu. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est écrit noir sur blanc dans ce verset-là. Les chrétiens n'ont pas le choix d'haïr le péché qui est dans ce monde. Le chrétien, s'il veut vivre en contact, puis de rester l'épouse bien-aimée, et non pas se faire traiter d'adultère, il doit se garder de tomber puis d'accepter les offres que ce monde va essayer de l'engloutir pour l'amener à se détourner de Dieu. Quelles sont les diverses caractéristiques qui ressortent de ce monde? 1 Jean 2,16. C'est juste un résumé, il y en a bien plus. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. C'est là qu'on voit que ce qui est dans le monde et ce qui est haï par Dieu, là, c'est les convoitises de la chair, convoitises des yeux, l'orgueil de la vie. C'est toutes des mauvais désirs. C'est toutes des choses mauvaises qui sont là dans ce monde et qui entraînent le monde dans leur pratique et dans leur raisonnement. Les gens dans le monde ne vivent pas pour plaire à Dieu, ils ne vivent pas pour se sanctifier, pour se purifier, puis pour fuir le péché. Les gens se livrent au péché. La majorité, je ne dis pas la majorité, mais beaucoup, beaucoup de mariages, ça c'est juste pour donner un exemple, beaucoup de mariages où il y a des gens qui ont trompé leurs épouses ou leurs époux. C'est un des points de péché. Mais il y en a des centaines de points de péché que la Bible nous enseigne sur tous les sujets différents. Dans nos pensées, dans nos agissements, dans nos paroles. Je commence que le monde est entraîné avec ses paroles à se vanter, puis à s'élever, puis à abaisser les autres, puis à se glorifier, puis à s'évaluer. Tu sais, avec les mots, juste là, on parle juste de la langue, là, comment est-ce qu'il y a de mauvais choses. Puis s'il ne l'a pas prononcé, comment est-ce qu'il y a une autre personne qui se pense le nombril du monde, puis qui se pense les tops, puis qui se pense que tout est pour eux autres, puis qui vivent que pour eux autres, puis dans leur pensée, c'est par motif d'intérêt qu'ils vivent les choses, puis tout haut pour essayer de profiter de l'autre, puis de se faire évaluer. Se faire vanter. C'est ça que ça dit, l'orgueil de la vie. Ça fait partie du péché qui est dans ce monde, d'un mode de vie que Dieu haït. Puis toute la télévision qui est comme une fenêtre, la télévision, là, je le réalise pleinement, que c'est une fenêtre qui nous donne accès au monde puis à la vie du monde. Si tu écoutes un film chrétien, là, cette fenêtre-là est en train de te montrer le cheminement d'une vie chrétienne. Mais des films chrétiens à télévision, là, il n'y en a pas un gros pourcentage. L'ensemble des films te montre de la violence, de la tuerie, des meurtres, de la méchanceté, des vols, de l'adultère à tour de bras, des gens qui sont homosexuels, tous les péchés, toutes les débauches, tout ce qui est là possible, imaginable, on le voit à plein écran. Ouais. Ceux qui ont des écrans géants, mais ils le voient en écran géant. Le pire, c'est d'aimer ça. C'est là qu'est le pire, c'est d'aimer ça. C'est sûr que tu vois une belle histoire d'amour, même si on n'a pas parlé de Dieu, c'est beau. L'amour, toutes les belles valeurs, c'est beau. T'écoutes un film comme Les Anges de la Rénovation, là, pis les gens ils sont là en train de rénover la maison pour les personnes qui souffrent. J'ai même pas écouté une émission que j'ai pas venu les larmes aux yeux. Tellement que c'est beau. Ils parlent pas de Dieu. Des fois, ils vont parler de Dieu. Mais c'est beau. C'est pas là qu'est le problème. C'est pas dans des émissions comme ça. Mais quand tu vois des émissions, les gens, c'est des médiums, puis ils aident des policiers avec des visions, puis ils parlent aux morts, puis ils invoquent les esprits dans d'autres films, puis ils ont des puissances de magiciens, puis des puissances pour vivre toutes sortes de choses, pour nous montrer que c'est beau, les puissances qui sont dans ce monde. Puis là, as-tu vu l'esprit qui est avec, là, lui aide dans tout ce qu'il fait? Fait que moi, tout, tu sais, on veut imiter le monde, on aime ça, on veut être en contact avec les démons. Wow, wow, wow! Il y a pas une, la Bible nous dit de ne pas invoquer les morts, puis de ne pas invoquer les esprits, puis pas voir les choses magiques comme étant des choses à aimer, puis des pouvoirs qu'on veut posséder. C'est le contraire. Ça fait partie du monde des ténèbres, du monde du diable, puis tu vois le monde dans le grand écran réussir dans leur vie s'ils ont tué 300 personnes, puis ils ont réussi à se rendre jusqu'au bout, puis avoir la victoire, puis que ça serait la morale à adopter. Ça, c'est le monde qui nous montre tout ça. Les chrétiens doivent pas aimer ça. Puis c'est quand on entend ça, on dit-tu « Amen » ou on dit « Ouch ». Ouch, Amen. Là, c'est vrai que les chrétiens, il faut faire attention parce qu'on est en train de se faire envahir par le monde, par la télévision. Il faut choisir nos émissions. T'écoutes un film d'amour, puis il est bien beau, c'est correct. Là, tu vois une scène de nudité. Détourne tes yeux de ça. Mets ton film sur pause puis fast forward. Dépêche-toi d'enlever tout ça puis pas être nourri de toute cette pourriture d'adultère puis d'impudicité puis de débauche puis de corruption puis de... Voyez-vous ce que je veux dire? Puis des fois, on aime un film parce qu'il nous a fait exciter dans l'adrénaline. On aime les films d'action, mais trois quarts des films d'action, si tu vois un film d'action, puis c'est juste comme des scènes, deux autos qui coursent, puis ils évitent des affaires, ça c'est correct, tu vois pas de mal là-dedans, mais si tu vois que c'est un film d'action parce qu'il a tué plein de monde sur son chemin, aïe aïe, je regarde ça à cette heure, j'ai de la misère à écouter ça. C'est comme si... J'ai pas besoin de ça.
C'est normal.
C'est rendu normal. Puis là, tu vois des couteaux, le gars avec son couteau, il tue du monde, tu vois, les scènes sont tellement bien faites, là, c'est rendu comme si ça serait vrai. Tu vois le couteau rentrant à sa gorge, puis le sang voler partout. Quel plaisir un chrétien peut avoir de regarder ça. La même chose que les vampires. Ils sont bien beaux, c'est une histoire d'amour, mais c'est quand même des vampires. C'est-tu la puissance du Saint-Esprit qui les a rendus vampires? Non, c'est la puissance des ténèbres, des démons. Ils restent en noirceur. C'est pas de Dieu pantoute, les loups-garous, la même affaire. À quelque part, je pense qu'il faut faire le ménage de ce qu'on écoute. Ça fait partie des choses du monde qui endort les chrétiens, qui attriste le Saint-Esprit. Après, les chrétiens disent, j'ai pas gros de force dans ma vie, il n'y a rien qui marche. Oui, mais t'es-tu sanctifié? Tu fais attention à ce que tu restes rentré dans ta vie? Ben, je me le dis, amen à moi aussi, hein? Puis si j'avais une enregistreuse, là, m'enregistrer les films des anges de la rénovation, puis c'est quoi l'autre film qui est bien beau, qu'on voit les gens qui chantent, puis là, c'est... Ben, il y a des dames au suivant, mais l'autre... Les gens font des performances pour essayer du talent à revendre, des affaires qui n'ont pas de violence, qui n'ont pas de méchanceté. Tu peux écouter des films normales.
Parce que les anges de la rénovation, ils mettent les anges dans le monde.
Ben, ils ne sont pas des anges.
Ouais, ils ne sont pas des anges quand même.
C'est des humains. Le titre n'est peut-être pas intéressant, mais les choses, c'est beau.
Ça devrait être dans l'église. Les gens de l'église devraient faire ça.
Puis comme la petite maison dans la prairie. Petite maison dans la prairie, il y avait plein de morale chrétienne. Je ne dis pas que c'est à 100% bon dans toutes les émissions, mais il y a plein de belles affaires. C'est correct, ça. Il n'y a pas de danger. Puis se divertir, tu es fatigué, tu veux te reposer, tu veux t'effoirer devant un film. Il faut y choisir. Mais si on voit des choses qui ne sont pas de Dieu, il ne faut pas, comme il a bien fait, lui, de lui en donner une. Non. On veut pas voir ce malheur-là, on veut pas voir cette méchanceté-là, on veut pas embarquer là-dedans. Faut fermer les scènes de ce qui est mauvais aux yeux de Dieu. Puis 1 Jean, quel est le résultat de notre foi dans ce monde? 1 Jean 5-4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Comment est-ce que je vais arriver à avoir la victoire sur ce monde? par ma foi. Mais la foi, c'est pas juste savoir. Ça, c'est la foi, c'est une ferme assurance, mais une démonstration. Si je veux avoir la victoire dans ce monde, il faut que je croie à ce que Dieu me révèle, puis qu'est-ce qu'il veut, puis qu'est-ce qu'il veut pas. Il faut que je le démontre, il faut que je le vive, il faut que je le mette en pratique, il faut que je rentre dans mon rôle de chrétien, puis je vais avoir la victoire sur le monde. Amen. On va y aller vitement pour le chrétien, le troisième ennemi du chrétien, le diable, le monde. Le troisième, le chrétien face à sa chair, son corps. Quel est le danger de se livrer aux convoitises de notre chair, aux convoitises de notre corps? 1 Pierre 2,11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Tout à l'heure, je l'ai mentionné, qu'on est des étrangers, des voyageurs. On est des gens juste de passage. Mais dans ce verset-là, ça nous dit, t'es une personne de passage. T'es juste ici pour un bout de temps. Mais fais attention à ce que ton corps désire dans ce monde, parce que ça va te faire la guerre à ton âme. Ça va te donner des combats dans ta tête si tu obéis à ton corps. Ton corps a des désirs qui ne sont pas les seuls de Dieu. Si tu commences à te livrer à ce que ton corps désire, tu vas avoir un combat dans ta tête. Ça va te faire la guerre à ton âme. Puis tu vas comme te donner plus de misère dans ta vie chrétienne si tu écoutes ton corps. On va voir d'autres versets, puis ça va nous faire comprendre plus en profondeur. Quelles sont les deux directions et leurs conséquences pour la marche d'un chrétien? Romains 8, 5. Ceux, en effet, qui vivent selon leur corps, ou la chair, ils s'affectionnent aux choses de leur corps, de leur chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, ils s'affectionnent aux choses de l'esprit. Voyez-vous, il y a deux chemins. Soit que tu aimes les choses de ton corps, puis tu veux te diriger dans les élans, dans les appétits de ton corps, ou soit que tu veux te diriger dans la direction du Saint-Esprit, parce que tu veux t'affectionner, tu veux aimer les choses qui appartiennent à l'Esprit. Il y a comme les deux chemins qui sont là, le chemin de l'Esprit et le chemin de ton corps. Qu'est-ce que tu aimes à suivre dans ces deux chemins-là? Verset 6, l'affection de la chair, le résultat d'aimer notre chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Voyez-vous le résultat? Si j'écoute mon corps, puis je décide de vivre selon les élans de mon corps, le résultat de ça, c'est la mort. Puis le contraire, si j'obéis à l'esprit, puis je décide de m'attacher aux choses de l'esprit, c'est la vie et la paix. Puis il y a l'autre verset, il est tranchant. L'affection de la chair, aimer son corps, c'est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne le peut même pas. Ceux qui vivent selon leur corps ne sauraient plaire à Dieu. Une autre conséquence de suivre les élans de ton corps, c'est si tu aimes les élans de ton corps, t'es rendu un ennemi de Dieu. Tout à l'heure, j'ai dit dans un autre verset, si t'aimais le monde, puis les choses que dans ce monde, en parlant des péchés de ce monde, tu deviens un ennemi de Dieu. Mais si t'écoutes ton corps, puis tu veux suivre hein, qu'est-ce que ton corps aime, je parle des choses de péché, si ton corps aime la crème en glace, c'est pas grave, tu payes un bol de crème en glace, c'est pas un péché. On parle au niveau des péchés. Si tu veux suivre les élans de ton corps, puis tu veux suivre ce que ton corps aime. Oh, je l'aime, la femme du voisin. Elle est bien belle, mais je suis en amour avec. Puis si je me livre à ça, je commets un péché devant Dieu. C'est de me laisser guider à obéir à mon corps. Donc, je dois dire à mon corps, il n'y en est pas question que je reste ouvrir cette pensée-là d'aimer ma femme de mon prochain. Même si mon corps a une attirance, je dois contrôler mon corps et pas lui obéir. Qui est le boss? c'est la volonté de Dieu qui est importante, pas la volonté de mon corps. Quand tu es chrétien, tu veux plus suivre ce que ton corps décide, tu veux suivre ce que Dieu dit dans sa parole. Fait qu'il y a des choses qu'on fait pas parce qu'on les aime pas. Si quelqu'un il aime ça être sous comme un cochon, puis il aime ça être un ivrogne, tu sais, puis ça y prend sa caisse de 24 à tous les jours, puis il est chrétien, puis non. Tu peux pas écouter ton corps puis rester alcoolique. Aucun ivrogne rentre dans le royaume des cieux. Tu dois travailler avec le Saint-Esprit, puis la parole de Dieu, puis les armes que Dieu nous a données pour combattre, pour arriver à faire mourir les actions de ton corps. On va le voir dans un autre verset. Si tu marches selon ton corps, tu ne peux pas plaire à Dieu. C'est simple. Si tu suis ton élan de corps, tu ne plais pas à Dieu. Pourtant, tu as accepté Jésus, tu es sauvé. La justice de Jésus est sur ton corps, est sur toi. Mais quand même, continue à suivre les élans de ton corps, puis ça ne plaît pas à Dieu du tout. Fait qu'il y a des chrétiens présentement qui marchent devant Dieu, puis qui ont réalisé que leur corps est à leurs ennemis, puis qui n'obéissent pas aux élans de leur corps, ils passent leur vie à combattre contre les élans de leur corps. Parce que c'est toute ta vie que tu vas à combattre dans ton corps, parce que ça a de l'air qu'on reste dans notre corps jusqu'à temps qu'on meurt. Fait que c'est tout le reste de ta vie que tu vas vivre sur cette terre. Tu vas rester dans ton corps, mais tu vas avoir à le contrôler pour ne pas te livrer à ses passions, ses convoitises, ses débauches. Tu vas avoir à le maîtriser, puis à dire non à ton corps, comme tu dis non au diable, comme tu dis non au monde. Tu dis non à ton corps, puis tu marches dans « Seigneur, ce que tu t'attends de moi, tu vois que mon corps est bien attiré, libère-moi de cela, fais mourir, puis là, Dieu va te donner la victoire. » Tiens, amen à cela. Quels sont les divers résultats de vivre selon notre corps? Mais là, on va en avoir une gang. Dans Galates 5, 19. Les œuvres de la chair, les œuvres du corps, c'est manifesté. C'est de l'impudicité, quand tu es impudique. Impur, dissolution, idolâtrie, magie. Hey, la magie, là, les puissances des ténèbres, c'est la puissance de notre corps. C'est pas la puissance de Dieu, ça, là. Les inimitiés, des querelles, des jalousies, des animosités, des disputes, des divisions, des sectes, l'envie, l'ivrognerie, puis il y en a un, les excès de table et les choses semblables. Qu'est-ce qui est semblable à l'ivrognerie? Les drogués! Parce que dans le temps de la Bible, il n'y en avait pas de drogués, ça n'existait pas. Mais s'il y en aurait eu, ça serait écrit. Les choses semblables, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Être débauché par de la boisson ou être débauché par de la drogue, c'est de la débauche. C'est des choses semblables. Tout, c'est tout. Faculté affaiblie. Si tu recherches ça, tu recherches à plaire à ton corps. Mais tout ce qu'on vient de voir là, ça fait partie des choses que tu ne peux pas plaire à Dieu si tu vis dans ces conditions-là. Puis tu ne dois pas écouter ton corps dans ces choses-là. Puis il y en a d'autres versets, c'est juste un survol qu'on fait. Que doit faire un chrétien face à sa chair, face à son corps? Galates 5, 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ, ils ont crucifié leur corps avec ses passions puis ses désirs. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu as crucifié ton corps. Qu'est-ce qu'on veut dire par cela? Mais il y a un sens figuré puis un sens spirituel. Le sens spirituel, c'est que quand Jésus il est mort sur la croix, il a été cloué sur la croix, il a reçu la malédiction sur lui. Il a pris ma place. Après ça, il est enterré, puis il est ressuscité. Quand on se fait baptiser d'eau, on démontre publiquement ce qui s'est passé dans notre vie. On est des morts, parce qu'on est ensevelis dans l'eau, on est des morts. Après ça, on est sorti de l'eau, on est en nouveauté de vie, comme Jésus est ressuscité d'après la mort. Mais le fait d'être enseveli dans l'eau, ça veut dire qu'on est devenu des morts. On a tous été crucifiés avec Jésus sur la croix. C'est comme si le jugement, Jésus l'a déjà payé, ça aurait dû être moins qu'il soit crucifié sur la croix. pour mes péchés, c'est moi le coupable, c'est moi qui aurais dû être crucifié puis privé des bénédictions puis recevoir ma bénédiction. Mais Jésus le prend à ma place, ça veut dire que quand tu es en Jésus, tu as été crucifié, tu es rendu un mort. Mais ça, dans ton mode de vie de tous les jours, un chrétien doit continuer à garder son corps mort. Autant que, en théorie, tu l'as eu, tu étais mort à ce monde, puis à tes péchés, tu es un mort aux yeux de ce monde, parce que tu fais plus partie de ce monde. Tu n'es plus régi sous les lois spirituelles de ce monde. Tu es un mort. Mais si tu es un mort, arrête d'écouter ce corps, puis continue à le faire mourir pour le reste de ta vie qui te laisse à vivre sur la terre. Garde ta position de mort devant Dieu. Arrête de courir à obéir à ce corps-là, puis continue à le faire mourir. Il y a un autre verset qu'on aurait pu rajouter. Ceux qui sont conduits par... fait mourir les actions du corps. Par l'esprit, fait mourir les actions de ton corps. Tu dois apprendre à garder ton corps, à être mort, puis à ne plus réagir selon ses pulsions naturelles qu'il a héritées de la vie terrestre, de tes ancêtres, de tes gènes familiaux, puis de tous tes péchés qu'on a pu être alimentés à cause de notre mode de vie qu'on héritait de nos pères. Parce que notre père avait une vie qui était étrangère de la vie de Dieu. Mes parents n'étaient pas chrétiens. Il avait un mode de vie étranger. Fait que moi, je suis né au monde dans un mode de vie étranger. J'ai hérité ses gènes, j'ai hérité ses pulsions, j'ai hérité son mode de vie parce que j'ai eu une éducation dans ma maison chez nous selon les manières de vivre de mon père et de ma mère. J'ai hérité plein de mauvaises manières de vivre. Fait que mon corps vivait dans la mort, dans mes péchés et dans mes corruptions. Mais quand je suis né à Jésus, je suis mort à tout ce qui était de mon ancienne vie. Je suis rendu une nouvelle créature. Spirituellement, je suis mort physiquement et vivant spirituellement, parce que je suis ressuscité. On a reçu le Saint-Esprit, puis c'est l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ habite en nous, mais on sait que celui qui a fait ressusciter Christ entre les morts rendra la vie à nos corps mortels. Mais en attendant qu'on ressuscite, on doit garder notre corps mort. Au neutre. A pu à courir après les mêmes pulsions de notre ancienne vie. Il faut faire attention aux nouvelles aussi, de se faire tenter, puis de se faire habituer aux nouvelles pulsions. Parce que tu peux être chrétien, puis mettons un exemple, jamais avoir été attiré par la drogue, puis que tu n'avais pas ce problème-là, puis une couple de temps après, quelqu'un qui vient te faire essayer ça, puis tu commences à devenir esclave de quelque chose que tu n'avais même pas avant. Ça veut dire que tu peux tomber dans des choses même que tu n'avais jamais connues. Faut que tu prennes garde. Autant que le monde peut essayer de t'introduire à des modes de vie qui vont t'assujettir à leur mode de vie, mais ça va t'emmener à des péchés, puis tu vas être pogné avec ça après ça toute ta vie. Faut y prendre garde. Voici une promesse du Seigneur dans Jean 8, 36. « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » On en a parlé au début de la réunion. Il dit, si on demeure dans sa parole, on est vraiment son disciple. On va connaître la vérité. Puis la vérité va nous rendre libres. Puis là, il dit dans ce verset-là, c'est quelques versets plus loin, « Si donc le Fils vous affranchit, si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libres. » Puis on a besoin de la liberté de notre corps. Puis Jésus peut nous rendre libres. En autant qu'on persévère dans sa parole, il va nous rendre libres. Puis quelle est la fin de celui qui remporte la victoire par Jésus? Romains 16, 22. Maintenant, étant franchi du péché, on est libéré du péché. On est devenu des esclaves de Dieu. On a pour fruit la sainteté et pour fin de vie, la vie éternelle. On est maintenant des affranchis. Christ, il nous a cru, on était crucifié avec Christ. La chair a plus de pouvoir sur vous. Le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Le péché va avoir seulement que le pouvoir que vous allez lui autoriser de prendre. Parce que spirituellement, on est mort. Le péché n'a plus de pouvoir. Mais si vous laissez le péché rentrer dans votre vie, puis vous envahir, puis vous allez redevenir esclave de celui à qui ce que vous vous livrez. Si vous êtes chrétien, vous avez donné votre vie au Seigneur, livrez-vous à Dieu et glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Puis Dieu va faire mourir les actions de votre corps, puis vous allez pouvoir avoir comme fruit dans votre vie la sainteté. Puis pour fin de vie, la vie éternelle. Alléluia. Une petite conclusion, un dernier verset que Paul a dit à Timothée. Combat le bon combat de la foi. Combat! Mais il y a un combat. Parce que c'est pas juste avoir la foi. La foi, c'est une ferme assurance, mais c'est une démonstration. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous apprenez à combattre. Les armes sont là. Moi, je peux pas combattre à votre place. Je peux vous aider dans votre combat. S'il y en a deux sur vous autres, je peux aller en prendre un. C'est une façon de parler. Mais vous aussi, vous avez à combattre. Si vous êtes là, « Oh, je peux pas me défendre », puis vous laissez envahir, puis vous laissez dominer, puis écraser, puis m'en débattre. Je peux vous essayer, vous aider, mais vous avez à apprendre à combattre.
Vous pouvez me donner des trucs.
Je peux vous donner des trucs, vous enseigner, vous montrer. Mais c'est à vous autres à faire l'effort de combattre contre le diable, contre le monde et contre votre corps. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. On est tous appelés à saisir la vie éternelle. Et pour y arriver, combattons le bon combat. Ne nous laissons pas dérouter par le diable, par le monde ou par notre corps. Parce que plusieurs ont abandonné le sentier étroit et resserré qui mène à la vie. Combat, persévère. Puis on va se rendre. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus qu'on est rassemblés en croyant que ta parole est vraie, Seigneur. Que tu nous révèles quels sont les ennemis principaux du chrétien. Je te demande, Seigneur, de nous apprendre à combattre le bon combat. Parce qu'on peut se combattre contre les tentations de ce monde, contre les pièges du diable, qu'on puisse y résister, qu'on puisse faire mourir les actions de notre corps. Qu'on se livre pas à toutes ces choses afin de s'éloigner de toi, mais que plutôt qu'on apprenne à prendre toutes tes armes, toute ta puissance que tu nous as déjà donnée, qu'on arrive à marcher dans le fruit de la sainteté, dans le chemin pour se rendre dans la vie éternelle. Je te remercie de ce que tu as fait en nous révélant ces choses, puis donne à chacun la grâce de pouvoir les utiliser dans le nom de Jésus. Amen.